Beaucoup de musulmans ne considèrent pas la Bible parce qu'ils estiment qu'elle a été changée par les juifs ou les chrétiens, qu'elle a été corrompue et qu'on ne peut plus y faire confiance. Certains disent que Dieu a bien donné le Taorat, la Torah de Moïse, mais la Torah fut corrompue. Alors il envoya le Zabour, les psaumes de David, mais le Zabour fut corrompu. Il envoya ensuite l'Injile ou l'Évangile à Jésus, fils de Marie, mais l'Injile fut corrompu. Enfin, Allah fut obligé de donner le Coran à Muhammad. Ont-ils raison? La vraie Bible a-t-elle été soit changée, soit enlevée carrément? Un croyant nous a dit que lorsque quelqu'un prétend que la Bible a été corrompue, il répond Astaghfir Allah, c'est-à-dire il demande tout de suite qu'Allah pardonne à cette personne d'avoir prononcé du blasphème. Il ne faut pas en effet qu'un serviteur d'Allah dise à la légère que de simples hommes mortels aient pu faire une telle chose. Après tout, nous savons tous que Dieu est le Tout-Puissant. N'est-il donc pas capable de protéger sa propre parole? Bien sûr qu'il en est capable. Si des êtres humains arrivent à corrompre la parole de Dieu, c'est que ces êtres humains sont plus forts ou plus malins que Dieu. Et nous savons que cela est impossible. Non, il est inconcevable que Dieu permette que sa parole soit changée. D'ailleurs, la Bible et le Coran tous deux nous affirment cela. Jésus dit en Marc 13, verset 31, Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le prophète Ésaïe dit, Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le Coran affirme clairement la même chose. La sourate 10, ayat 64, Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. La sourate 6, ayat 34, dit pour sa part, Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. D'autres passages du Coran soutiennent cette même vérité. Le Coran ne dit pas d'ailleurs qu'il a été donné parce que les autres écritures de la part d'Allah auraient été changées. Il suggère plutôt que sa révélation n'était pas encore parvenue au peuple arabe dans leur propre langue, et que pour cette raison, Allah choisit Muhammad et lui confia la même révélation pour son peuple, mais d'une manière qu'il pourrait la comprendre. Écoutez la sourate 41, ayat 43 et 44, où Allah dit au prophète, Il ne t'est dit que ce qui a été dit au messager avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Un Coran non arabe et un messager arabe? Ou encore la sourate 14, ayat 4. Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Encore la sourate 42, ayat 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. On voit clairement que le don du Coran à Muhammad n'avait rien à voir avec une soi-disant corruption des révélations précédentes. Dans cette discussion, on emploie parfois le mot arabe tarif, qui veut dire que l'on dénature quelque chose, on le change de son état originel. On le traduit donc parfois par corrompre. Mais on ignore souvent qu'il y a deux sortes de tarif. Il y a tarif ilafzi qui désigne le fait de changer le texte écrit, le texte même. Il y a aussi tarif imanawi qui désigne le fait de changer le sens, c'est-à-dire de donner de mauvaises explications d'un texte. En lisant les passages du Coran que certains citent pour appuyer l'idée que la Bible a été corrompue, il est clair que presque tous ces textes se réfèrent à la deuxième sorte de tarif et ne mettent donc nullement en doute l'authenticité du texte de la Bible tel que nous l'avons. Par exemple, dans la sourate 3, ayat 78, nous lisons: Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent: Ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Imam Fakir Adin Razi, dans son commentaire sur ce verset, dit explicitement que les Juifs commirent Tarif al-Manwai seulement, et que ce passage ne signifie pas qu'ils aient altéré le texte sacré. On cite également la sourate 2, ayat 75 et 77. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la Torah, la falsifièrent sciemment. Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre. Remarquez que ces passages se réfèrent uniquement aux Écritures juives et non pas à l'Évangile. En plus, il ne parle pas de changer ce qui était écrit, mais plutôt de tordre le sens quand on faisait la lecture à haute voix de ce qui était écrit, ou de changer le sens qu'on donnait aux auditeurs par le fait d'omettre certaines parties et ne pas les prononcer. Il y a par contre un texte dans le Coran qui parle d'un péché commis par certains juifs en écrivant. Malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présente comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc à cause de ce qu'ils en profitent. Sourate 2, ayat 79. Mais ces accusations signifient-elles que les Juifs prenaient un texte authentique et l'altéraient de façon permanente? Supposons qu'une corruption de manuscrits ait eu lieu. Ne peut-on pas demander si tous les Juifs du monde ont suivi ceux à qui Muhammad s'adresse ici? Et si, bizarrement, les Juifs dans tous les autres pays ont accepté les changements apportés par le groupe mentionné dans ce passage du Coran, faut-il croire que tous les chrétiens à travers le monde aient accepté ces mêmes changements à leur texte sacré? Car il faut se rappeler que les chrétiens aussi possèdent la Torah. Eux aussi ont chéri et conservé les livres de Moïse et des autres prophètes depuis presque 2000 ans. On ne peut guère déduire de ce texte qui se réfère à un acte commis au sein d'une petite communauté juive dans un endroit reculé, a eu pour résultat la corruption de la Torah, dont toute la population juive partout dans le monde à l'époque, ainsi que la population chrétienne, plusieurs fois plus grande, possédait des exemplaires. Ce n'est pas une déduction raisonnable. En plus, comme nous l'avons dit, aucun de ces passages coraniques ne parle d'une corruption de l'Injil, le Nouveau Testament des chrétiens. Il est important de savoir qu'avant le XIIe siècle, c'est-à-dire 500 ans après le temps de Muhammad, aucun érudit musulman n'a suggéré que les textes de la Bible étaient corrompus. Ni Muhammad, ni ceux qu'on appelle les bien dirigés, n'ont avancé une telle idée. Les anciens commentateurs, tels que Ibn Mazar et Abu Hatim, citaient Ibn Munia pour affirmer explicitement que la Torah et l'Injil sont encore dans le même état de pureté dans lequel ils furent descendus du ciel, et qu'aucune modification n'a été faite, mais que les Juifs avaient l'habitude de tromper le peuple par des arguments mal fondés et en tordant le sens de l'Écriture. La sourate 2, ayat 40-41 dit: Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. La sourate 5, ayat 68 et 69 dit: Aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah et au jour dernier, et qui accomplissent des œuvres bonnes, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. Le lecteur ne peut que tirer la conclusion que, selon le Coran, les révélations accordées au peuple du livre étaient encore à leur disposition. Il n'y a aucune indication que ces écritures avaient été enlevées ou annulées par Dieu, ou corrompues par les hommes. Au contraire, l'existence des écritures est affirmée explicitement. Le deuxième passage avertit le peuple du livre que s'ils n'observent pas la Torah et l'Injil, ils sont des mécréants, des kafiroun. Si les textes authentiques n'étaient pas disponibles, comment le Coran dirait-il au peuple du livre d'observer et d'obéir à ces textes corrompus? On doit peut-être préciser que les érudits musulmans disent que la sourate 5 est parmi les toutes dernières révélations du Coran. Nous avons déjà cité dans l'étude précédente que la sourate 4, ayat 136, « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. » Étant donné que le Coran ordonne les fidèles à croire à tous les livres, c'est-à-dire à apprendre, à comprendre et à suivre leur contenu, c'est que leur contenu ne peut pas être corrompu ou annulé. Enfin, en cas de doute, même Muhammad devait se référer aux Écritures confiées aux Juifs et aux chrétiens. Allah lui dit dans la sourate 10, ayat 94, « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. » Ne vous semble-t-il pas étrange que certains musulmans prétendent que la Bible a été annulée, enlevée au ciel ou corrompue, de sorte qu'elle ne soit plus un guide fiable? Évidemment, on ne pourrait pas se servir d'un livre corrompu pour évaluer ou confirmer le Coran. La lecture de la Bible n'est pas défendue. Elle est recommandée par le Coran. Elle n'a pas été corrompue. Le Coran lui-même nous enseigne cela. Si Dieu le veut, nous allons voir dans la prochaine partie de cette étude comment Dieu a fait pour protéger et conserver son livre, la Bible.